Dans la saison 3 de Feu de camp, je vous ai présenté le triangle des Bermudes. Dans la saison 4, j'ai parlé du triangle de Bennington. Et aujourd'hui, c'est avec un immense plaisir que je vous présente un troisième triangle, celui de Bridgewater, situé au sud-est du Massachusetts. Les amateurs de phénomènes inexpliqués se plaisent à le qualifier de vortex paranormal tant les histoires abondent. Et autant vous prévenir tout de suite, il y en a pour tous les goûts et pour tous les sens. Quelle que soit votre peur la plus profonde, les chances de vous y retrouver confronté sont décuplées lorsque vous entrez dans cette zone. Et comme elle s'étend sur 500 km², il y a largement la place pour vous offrir la peur de votre vie. Je suis Taous Merakchi. Vous écoutez Feu de camp saison 5, le podcast énergie qui vous transporte dans des histoires paranormales et non élucidées. Son périmètre a été défini par le cryptozoologue Loren Coleman en 1983, mais d'étranges phénomènes ont été observés dans la zone bien avant cela. Le plus ancien témoignage retrouvé par Coleman lors de ses recherches date du 10 mai 1760. Plusieurs personnes racontent avoir aperçu une sphère lumineuse, plus brillante que le soleil, flotter dans les airs entre Bridgewater et Roxbury. Depuis, le phénomène s'est reproduit à de nombreuses reprises, toujours devant des dizaines de témoins. Ça, c'est pour la partie post-coloniale de l'histoire, parce qu'en réalité, les natifs américains qui vivaient sur le territoire avant l'invasion avaient déjà leur propre légende et rumeurs sur les environs. La transmission écrite prenant le pas sur la tradition orale, sans parler bien sûr de toute la dimension écrasante de la colonisation, ce sont principalement des histoires venant des colons et de leurs descendants que l'on peut trouver aujourd'hui. Heureusement, les descendants des Wampanoag, qui habitaient la région avant d'être en grande partie décimés par les Anglais, parviennent à transmettre certaines légendes venant de leurs ancêtres. Parmi elles, il y a la légende des Thunderbirds, ou oiseaux tonnerres. Ce sont des oiseaux gigantesques, aussi grands que trois hommes, dont le battement des ailes produit un bruit similaire au tonnerre et dont les yeux jettent des éclairs. Ces oiseaux terrifiants auraient été observés à plusieurs reprises dans le triangle, mais surtout aux alentours du marais de Hockomock, une des zones les plus actives en matière de phénomènes paranormaux. Il faut dire que son nom signifie littéralement « le lieu où habitent les esprits ». En 1971, un policier du nom de Thomas Downey raconte qu'il a vu un de ces oiseaux survoler sa voiture alors qu'il était au volant. Il affirme que la bête faisait au moins 1,80 m et que son envergure en faisait le double. Après avoir observé l'oiseau jusqu'à ce qu'il disparaisse, Thomas s'empresse de faire son rapport auprès de ses collègues, qui lui rit évidemment au nez. Mais il n'est pas le seul à avoir vécu une expérience comme celle-ci. Dans les années 80, Kathleen et Donald Garner se retrouvent nez à nez, ou plutôt nez à bec, avec une créature qui ressemble beaucoup à l'oiseau géant aperçu par Thomas Downey. Ils sont en voiture et roulent doucement vers leur nouvelle maison, prêts à finaliser leur emménagement, quand soudain, une immense tête d'oiseau se plaque contre la fenêtre de Kathleen. Celle-ci hurle de peur, faisant fuir le volatile par la même occasion. Mais la rencontre est suffisamment marquante pour qu'elle puisse le décrire. Il est tout blanc, mesure au moins 1,80 m, avec une envergure proche du double, et il a des dents. Elle ne l'a plus jamais revu après ça, et personne ne la croit dans son entourage. Ces oiseaux géants sont loin d'être les seules créatures à hanter le triangle de Bridgewater. En 1978, un certain Joseph DeAndrade se promène tranquillement le long de la forêt lorsqu'il est parcouru d'un frisson. Il est soudainement persuadé d'être suivi et se sent observé. Il se retourne brutalement et aperçoit, à moins de 200 mètres, un individu particulièrement grand et hirsute à l'orée du bois. Joseph sent une odeur qu'il décrit comme nauséabonde et terreuse, qu'il associe immédiatement à la créature qu'il vient de voir. Il l'observe quelques instants, le temps de la voir s'enfoncer entre les arbres d'une démarche raide, similaire à celle du monstre de Frankenstein. Il ne faut pas longtemps pour que les habitants de la région commencent à parler de cet homme singe qui vit dans les bois et les marais. 5 ans plus tard, c'est le trappeur John Baker qui aperçoit quelque chose de similaire alors qu'il remonte la rivière dans son canoë. À quelques mètres de lui, sur la rive, il voit une grande silhouette velue passer en courant, laissant derrière elle une odeur répugnante. En 1980, un groupe d'amis aperçoit ce qu'ils décrivent comme un drôle d'orang-outan assis sur une île qu'ils viennent de longer en kayak. Enfin, dans les années 70, deux policiers qui étaient assis dans leur voiture racontent avoir senti leur véhicule soulevé par l'arrière par quelqu'un avant qu'il ne le relâche brutalement et s'enfuit en courant dans les bois. La silhouette qu'ils décrivent est la même que dans les autres témoignages. L'oiseau tonnerre et l'homme singe sont tous les deux ce qu'on appelle des cryptides, c'est-à-dire des créatures dont l'existence n'a jamais été totalement prouvée, en dehors de quelques vidéos et photos floues dans certains cas. Il y en a partout dans le monde. Chaque culture et chaque région ont leur propre cryptide. Mais ce n'est qu'une petite partie de la faune étrange qui peuple le triangle de Bridgewater. Et il y a plus fantastique encore que ces étranges chimères. D'après les légendes amérindiennes, vous n'êtes pas à l'abri de croiser le chemin de quelques Puckpudgini. D'après le folklore Wampanoag, ces petites créatures dont la taille ne dépasse pas les 90 cm ressemblent à un mélange entre un porc-épic et l'image qu'on se fait d'un petit gobelin. Alors, dit comme ça, c'est super mignon. Sauf qu'ils ont la fâcheuse tendance à conduire les humains vers une mort certaine en usant de leur magie. Ils sont capables de changer d'apparence, lancent des fléchettes empoisonnées et peuvent créer du feu à volonté. Et s'ils ont réussi à cohabiter un temps avec les humains, se montrant même très amicaux avec eux, une trahison les a poussés à se retourner contre nous, et il est donc désormais conseillé d'éviter de les contrarier. Car si un Puckpudgini a des raisons de vous en vouloir, il ne se privera pas de vous kidnapper, vous pousser d'une falaise, vous jeter du sable dans les yeux, ou vous planter avec des petits couteaux et des lances jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, dans le doute, si vous vous promenez dans la région et que vous entendez un bruissement dans les fourrages, ou que vous apercevez des épines de porc-épic, fuyez dans la direction opposée, en faisant très attention à ne pas écraser un de leurs potes dans la précipitation. Pour résumer, on a des lumières étranges, potentiellement des ovnis, des cryptides, des représentants du petit peuple, mais que manque-t-il donc à notre triangle pour être parfait? Bah oui, des fantômes, bien sûr. Coup de bol, il en a quelques-uns en stock. L'un des plus célèbres est celui de l'autostoppeur de la route 44. Plusieurs automobilistes racontent l'avoir croisé au fil des années et le décrivent toujours de la même façon. Grand, émacié, aux cheveux roux et à la barbe fournie, il erre le long de la route, le regard vide. Mais que se passe-t-il quand on lui propose de l'aide? John Palmer en a fait l'expérience au début des années 70 et il s'en souviendra toute sa vie. Alors qu'il est en voiture avec sa femme, Pamela, il s'arrête un instant pour utiliser une cabine téléphonique sur le bord de la route. Une fois arrivé à sa hauteur, il aperçoit l'autostoppeur roux et son air hagard. Il s'approche prudemment de lui et lui demande s'il a besoin de quelque chose. L'autostoppeur ne répond pas. John lui repose la question, mais alors qu'il fait quelques pas vers lui, il s'aperçoit que l'homme est légèrement transparent. De plus, ses traits sont un peu déformés, comme s'ils avaient fondu au soleil. Il n'en faut pas plus pour que John prenne ses jambes à son cou et se précipite vers sa voiture pour retrouver sa femme et lui raconter ce qu'il vient de voir. Mais quand il arrive au niveau du véhicule, il découvre Pamela debout à quelques mètres, l'air terrorisé. Elle lui raconte qu'elle a voulu utiliser la radio pour se distraire en attendant son retour, mais en l'allumant, elle a entendu un rire démoniaque et une voix narquoise crier son nom. Le couple remonte rapidement dans la voiture et se barre à toute vitesse, et tout rentre dans l'ordre. Quelques années plus tard, en 1973, un autre conducteur, Fred, va un peu plus loin dans la confrontation. Lorsqu'il aperçoit l'homme roux sur le bord de la route par une belle nuit d'été, il décide de se montrer charitable et s'arrête quelques mètres devant lui pour lui permettre de monter à bord. Dans son rétroviseur, il voit alors l'homme se mettre à courir en direction de sa voiture et se glisser ensuite sur la banquette arrière sans un mot, un étrange sourire plaqué sur les lèvres. Fred démarre, puis lui demande où il se rend, ce à quoi l'autostoppeur ne répond pas. Agacé, le conducteur lui repose la question, mais l'homme ne répond toujours pas. Fred en a assez et décide de couper court au trajet de son passager silencieux. Il s'arrête sur le bord de la route et le somme de partir sur le champ. L'autostoppeur le regarde, lui sourit, puis s'en va. Ou plutôt, il se volatilise. Il passe à travers la portière comme s'il était fait de brouillard et disparaît. « Mais il y a pire encore. En 1981, Barbara conduit seule de nuit lorsqu'un homme apparaît soudainement dans son champ de vision en plein milieu de la route. Elle n'a pas le temps de freiner ni de dévier et le percute de plein fouet. Mais aucun impact ne se fait ressentir. Au contraire, c'est comme si la voiture l'avait traversée. Barbara arrête tout de même son véhicule et en sort paniquée pour vérifier qu'elle n'a tué personne. La route est déserte. Il fait nuit noire et la seule lumière provient des phares de sa voiture. Quand soudain, en provenance de la forêt, elle entend retentir un rire sadique et tonitruant. Elle se rue alors dans sa voiture, démarre en trombe et se tire de là. Mais quelques mètres plus loin, l'homme se tient à nouveau debout au milieu de la route. Et à nouveau, trop tard pour l'éviter, elle le traverse. Cette fois, lorsqu'elle s'arrête, elle ne sort pas de sa voiture mais se contente de baisser la fenêtre. Et immédiatement, elle entend le rire éclater à nouveau. Elle repart alors en vitesse et ne s'arrête plus jusqu'à être arrivée à destination. La route reste dangereuse même quand vous n'avez pas d'autostoppeur fantôme à bord de votre véhicule. Parce que, clairement, cette zone géographique est maudite jusqu'à son noyau. Vous avez besoin d'une preuve supplémentaire ? Eh bien, parlons par exemple du poids lourd fantôme qui s'amuse à terroriser les automobilistes en se collant à leur pare-choc au milieu de la nuit, plein phare, en balançant des coups de klaxon assourdissants. De quoi rendre un trajet nocturne encore plus stressant que d'ordinaire. Non mais ok, je vois bien que ça vous suffit pas. Allons faire un tour près du lac dans ce cas. On y croise des serpents géants, et il y a parfois des pluies de grenouilles qui s'abattent sur les pêcheurs et les promeneurs. Sans parler des grandes silhouettes étranges que l'on peut voir circuler juste sous la surface de l'eau, sans jamais pouvoir les identifier. Toujours pas assez ? Bon, peut-être qu'un immense chien noir de la taille d'un poney est connu pour attaquer le bétail et les promeneurs imprudents en leur arrachant la gorge de ses crocs acérés, suffira à vous convaincre. En réalité, il me faudrait bien plus d'un épisode pour lister toutes les choses étranges et terrifiantes qui ont été observées dans le triangle de Bridgewater. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Ça vaut peut-être mieux comme ça. Oh, et si tout ce qui relève du paranormal ne suffit pas à vous effrayer, sachez que le triangle a également été le théâtre de plusieurs meurtres, dont certains ont été rattachés à des sectes satanistes. Je ne me risquerai pas à vous les raconter en détail, par respect pour les victimes et pour éviter de faire de leurs meurtres un outil de divertissement, mais on ne peut nier l'impact que ça a sur la réputation du lieu. Le fantastique et le tragique se mélangent pour créer un cocktail mystique qui vous atteint de toutes parts. Des peurs les plus enfantines à celles qui deviennent tristement réelles à l'âge adulte, il y a de tout dans ce triangle. C'est un peu le Disneyland de la trouille, où l'on trouve des frissons par milliers, pour les grands et les petits, comme une corne d'abondance cauchemardesque. Difficile de ne pas fantasmer, de ne pas sentir l'appel du défi, de ne pas céder à l'envie d'aller frôler le danger de si près, ou même de s'imaginer rejoindre les rangs des ghouls et des spectres qui hantent le marais, pourquoi pas. C'est un bon plan de retraite, ça, fantôme des marécages. Merci d'avoir écouté Feu de camp, un podcast énergie produit par Paradiso Media, écrit par Taous Merakchi et réalisé par Gérald Doré.